Monsieur le conseiller fédéral, mesdames et messieurs représentants des autorités civiles et religieuses, chers amis, c'est avec émotion que j'ai reçu l'invitation à être ce soir parmi vous pour la célébration du 40e anniversaire de la déclaration conciliaire Nostra Aetate. Il m'est demandé d'évoquer la personnalité de celui qui, sans doute plus qu'aucun autre, a su en recueillir l'inspiration et donner une impulsion décisive au changement et aux conversions que le Concile attendait de nous, le pape Jean-Paul II. Dans sa Pologne natale, Karol Wojtyla avait été témoin de la tragédie du peuple juif, une tragédie dans la tragédie. Devenu pape, Karol Wojtyla devait retrouver un ami juif, camarade de lycée, qui avait survécu à la féroce persécution antisémite. Le futur pape savait d'expérience. Lors de son premier voyage comme successeur de Pierre à Auschwitz-Birkenau, le 7 juin 1979, s'agenouillant devant chacune des pierres commémoratives, il prononça ces paroles. Tout particulièrement, je m'arrête avec vous, très chers participants, devant la pierre avec l'inscription en langue hébraïque. Cette pierre éveille le souvenir du peuple, dont les fils et les filles étaient destinés à une extermination totale. Ce peuple a son origine en Abraham, qui est le père de notre foi, comme l'a exprimé Paul de Tarse. C'est proprement ce peuple qui a reçu de Dieu le commandement « Tu ne tueras pas », qui a éprouvé sur lui-même, d'une manière particulière, ce que signifie « tuer ». Devant cette pierre, il n'est permis à personne de passer outre avec indifférence. C'est une chose terrible à dire, mais que nous devons dire. Il aura fallu le crime inouï de la Shoah pour que les consciences enfin se réveillent. Certes, il y avait eu des pionniers, et ici à Genève, il est bon de rappeler les noms du docteur Hübner, du grand rabbin Safran, et du futur cardinal Journet, représentant de son ami Jacques Maritain, participant à la conférence de Seelisberg. Mais revenons à Jean-Paul II. Le 14 juin 1987, il est à Varsovie, où il rencontre les quelques survivants de la communauté juive exterminée par les nazis. « Je pense, dit-il, que la nation d'Israël, peut-être jamais comme aujourd'hui, se trouve au centre de l'attention des nations du monde, avant tout à cause de sa terrible expérience, à travers laquelle vous êtes devenu une voix qui se lève avec force pour avertir toute l'humanité, toutes les nations, toutes les puissances de ce monde, tous les systèmes et chaque personne. Plus que quiconque, vous êtes devenu cette monition salutaire. Je pense qu'en ce sens, vous continuez à répondre à votre vocation. Vocation particulière, vous montrant les héritiers de cette élection à laquelle Dieu est fidèle. Telle est votre mission dans le monde contemporain devant les peuples, les nations, toute l'humanité, l'Église. Et en cette Église, tous les peuples et les nations se sentent unis à vous en une telle mission. Certainement, ils attribuent une grande importance à votre nation et à ses souffrances, à sa Shoah, quand ils désirent avertir les individus et les nations. En votre nom, le pape aussi ajoute sa voix à cet avertissement. Le pape polonais a un rapport particulier avec tout cela, parce que, comme vous, il a, en un certain sens, vécu tout cela, ici, sur cette terre. Fin de la citation. Ce sont des paroles lourdes de sens et programmatiques. Pour en saisir toute la portée, nous pouvons nous reporter au discours adressé quelques années plus tôt aux représentants du judaïsme allemand à Mayence. Il est question du dialogue entre le peuple de Dieu de l'ancienne alliance, jamais révoqué, et celui de la nouvelle alliance. Ce qui équivaut à reconnaître les Juifs comme peuple de Dieu. Ajoutant, ce qui est essentiel pour la nature de notre dialogue, il s'agit de la rencontre entre les églises chrétiennes aujourd'hui et l'actuel peuple de l'alliance conclue avec Moïse. Il m'a semblé utile de relire avec vous ces textes avant de rappeler quelques faits significatifs. Dès Jean 23, l'Église catholique a procédé à la révision de ses textes liturgiques pour en éliminer les traces de l'enseignement du mépris. En 1974, Paul VI avait institué une commission pour les rapports religieux avec le judaïsme, rattachée au Conseil pour l'unité des chrétiens, mais ayant sa propre autonomie. Sous Jean-Paul II, son activité de cette commission devait s'intensifier soit à travers les colloques avec des grandes organisations juives, soit à travers des documents servant à la catéchèse, car il s'agit d'extirper des préjugés et de donner des bases doctrinales positives dès les premières années de formation à nos enfants. En 1998, la Commission publiera un document portant directement sur l'antisémitisme et la Shoah. Nous nous souvenons. Le texte est précédé d'une lettre personnelle de Jean-Paul II. Mais il convient de souligner à côté des documents les gestes d'une exceptionnelle portée symbolique posée par le pape. Je pense ici à la visite faite le 13 avril 1986 à la Grande Synagogue de Rome. Jean-Paul II répondit à l'accueil chaleureux du grand rabbin Eliot Toaff en saluant avec l'expression « nos frères aînés dans la foi d'Abraham ». L'expression prêta à malentendu, Jean-Paul II en précisera plus tard l'intention et le sens. « Frères de prédilection, héritiers de la foi des patriarches ». Et nous avons tous en mémoire l'image du vieux pape, seul devant le Dieu des Pères, au pied du mont du Temple, insérant dans le mur le cotel que les Juifs vénèrent depuis 2000 ans, le texte d'une prière de pardon. Cela se passait le 26 mars 2000, au terme du voyage jubilaire en Terre Sainte. Quelques jours plus tôt, le dimanche 12 mars, le pape avait présidé à la basilique Saint-Pierre de Rome la liturgie pénitentielle. Cette liturgie fut un point fort de l'année jubilaire. Il faut nous arrêter quelque peu à cette journée du pardon, car elle nous permet de comprendre à quelle profondeur il faut aller pour repérer les nécessaires conversions. Jean-Paul II avait surpris quand, en vue de la préparation de l'année jubilaire, il avait invité les fils de l'Église à un acte de purification de la mémoire. À travers une demande de pardon pour des actes commis au cours de l'histoire par des chrétiens qui, au lieu de porter témoignage à l'Évangile et à Jésus-Christ, avaient causé du scandale. L'invitation portait à une démarche de vérité, tout ensemble humble et courageuse. Je demande pardon et je pardonne. Ici, une objection peut se présenter. Elle n'a pas manqué d'être présentée. Seul l'offensé, qui n'est plus parmi nous, pourrait, s'il le voulait, pardonner. Par ailleurs, c'est au coupable en personne qu'il revient de demander pardon. À nous en tenir à l'horizontalité des rapports humains, la situation semblerait sans issue. Mais telle est, me semble-t-il, la certitude qui a conduit Jean-Paul II sur le chemin de la purification de la mémoire. Elle porte sur la conscience de ce qui constitue la mémoire du croyant. Celle-ci est bien davantage que le lieu où sont conservées les traces et les souvenirs, heureux ou malheureux, de l'histoire, en ce sens que le travail de mémorisation débouche sur la mémoire de soi, laquelle à son tour nous porte à la mémoire de Dieu. C'est ainsi par un choix délibéré que la demande de pardon a été inscrite dans un acte liturgique. En d'autres termes, nous sommes convoqués à nous souvenir au-delà des épisodes de l'existence, de notre propre identité, avec les exigences qui en découlent, à la lumière du dessein de Dieu. Il s'agit d'un mouvement d'ascension spirituelle qui est simultanément un approfondissement spirituel. Il s'agit d'une démarche de foi. L'interrogation sur le sens de la terrible épreuve de la Shoah ne peut pas ne pas être en même temps, pour les uns et les autres, une question sur nos identités. Une question déchirante, comme le cri de Job. Cette question, elle nous conduit à Dieu, Dieu de nos pères dans la foi, Dieu de l'élection, Dieu des alliances, Dieu qui pardonne au-delà de 1000 générations. C'est là que, sans nier nos différences, nous nous rencontrons, là où sont nos origines et la source de tout pardon. La mémoire du passé n'est pas à l'abri de déformations et de mensonges. Le premier travail fut donc un travail d'objectivité historique. Nous avons recherché quelles sont les racines de l'antisémitisme. Ce fut la tâche de la commission théologico-historique instituée en vue de la préparation de l'année du Grand Jubilé. Parallèlement, la commission biblique pontificale devait publier un document sur le peuple juif et ses écritures saintes dans la Bible chrétienne, qui contient une importante préface de l'alors cardinal Ratzinger. Ce texte devrait conduire à la révision de certains lieux communs théologiques jamais soumis à l'examen critique. Des théologiens, en effet, avaient interprété la succession de l'Ancien et du Nouveau Testament comme une rupture et une substitution. C'était faire fi de l'affirmation de Paul, les dons et l'appel de Dieu sont sans repentance. La succession implique, au contraire, continuité. Sans l'Ancien Testament, le mot ancien évoque la vénération des pères. Sans l'Ancien Testament, le nouveau est vidé de son sens. La prière de l'Église est nourrie de la Bible. Et lors du symposium de la commission théologico-historique sur les racines de l'antijudaïsme en milieu chrétien, Jean-Paul II nous avait mis en garde contre le danger des résurgences de l'hérésie du marcionnisme qui opposait le Dieu de l'Ancien Testament au Dieu du Nouveau Testament. L'Église, dès les premiers siècles, avait aussitôt réagi avec vigueur. Mais pas tous les chrétiens l'avaient fait. Si j'évoque le travail de ces deux commissions, c'est pour attester le sérieux avec lequel l'Église catholique s'est engagée sous la conduite de Jean-Paul II et dans le sillage de Nostra Aetate sur la voie de la purification de la mémoire. Le travail se poursuit et doit se poursuivre au niveau des Églises locales. Pour terminer, j'aimerais vous lire deux textes. Le premier est une prière, celle de la journée du pardon. Elle est précédée d'une invitation. Prions pour que, dans le souvenir des souffrances endurées au cours de l'histoire par le peuple d'Israël, les chrétiens sachent reconnaître les péchés commis par nombre des leurs contre le peuple de l'Alliance et des bénédictions, et ainsi purifier leur cœur. Et voici la prière elle-même. Dieu de nos pères, tu as choisi Abraham et sa descendance pour que ton nom soit apporté au peuple. Nous sommes profondément attristés par le comportement de ceux qui, au cours de l'histoire, les ont fait souffrir, eux qui sont tes fils. Et en te demandant pardon, nous voulons nous engager à vivre une fraternité authentique avec le peuple de l'Alliance. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le second texte est de Martin Buber. Celui-ci, durant les années 1948-1949, s'était livré à l'étude du christianisme. Il était arrivé à la conviction que Jésus tenait une grande place dans l'histoire de la foi d'Israël. Et il concluait par ces paroles. La foi du judaïsme et la foi du christianisme sont chacune dans son genre respectif essentiellement différentes. Mais un Israël qui s'efforcerait de raviver, grâce à sa propre foi, une renaissance de la personne, et un christianisme qui, grâce à sa propre foi, s'efforcerait de raviver une renaissance des peuples, auraient à se dire des choses qui ne se sont jamais dites et à se prêter l'un à l'autre une aide qui aujourd'hui est à peine imaginable. Interprète inspiré de Nostra Aetate, le pape Jean-Paul II nous a montré la voie de ce qu'il y a peu encore nous pouvions considérer comme inimaginable. Merci de votre attention.